Bonjour et re-bienvenue sur le podcast de Sur deux roues. Je suis très excité aujourd'hui parce que c'est le premier épisode d'une série de 3 à 4 épisodes sur le cyclisme professionnel féminin. C'est un sujet qui n'est pas beaucoup couvert dans les médias traditionnels et que j'avais le goût de traiter. Aujourd'hui, on reçoit Gabrielle Pilote-Fortin. C'est quelqu'un qui était très en demande lorsque j'ai posé la question qui je devrais recevoir sur le podcast. Pour ceux qui la connaissent pas, c'est une jeune retraitée du cyclisme professionnel, une ex du World Tour féminin, donc le plus haut échelon du cyclisme professionnel. Elle a eu un vrai parcours de combattante tout le long de sa carrière. Elle vient nous parler de comment elle a atteint le World Tour, toutes les difficultés au travers du temps, l'état du cyclisme féminin professionnel, ses plus beaux souvenirs, et nous parle un peu de son après-carrière. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle qu'on est disponible sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Podcasts, bref, toutes les plateformes. Je vous invite aussi à vous abonner, à liker et à partager nos épisodes afin qu'un maximum de personnes puissent découvrir le podcast. Sur ce, sans plus tarder, allons écouter l'épisode. Tout d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation.
Mais ça fait plaisir.
C'est vraiment drôle parce que, tu sais, bon, à la fin de l'année passée, je disais que je voulais avoir comme plus de diversité sur le podcast, inviter plus de femmes pour parler justement de leur parcours, puis ton nom est ressorti vraiment beaucoup. Je pense que t'as inspiré beaucoup de personnes au Québec. Après ça, quand j'ai commencé à faire de la recherche sur ton parcours, hein, tu sais, le fait que tu sois une sportive qui a en même temps continué ses études, qu'est-ce qui est comme deux jobs à temps plein, là, on se le cachera pas. En plus, tu as été très vocale sur la condition féminine sur le World Tour. Tu as une après-carrière qui est florissante de ce que j'ai pu comprendre. Fait que je trouvais ça vraiment cool de t'avoir et de parler justement de ton parcours.
Nice. Ah ouais, ben, c'est drôle parce que tu sais, quand tu es dans ta bulle, genre dans tes choses, tu te rends pas compte que tu as vraiment comme un impact sur la vie des autres. Genre. Fait à chaque fois que les gens me disent « Ah ouais, t'es comme t'es une inspiration », on dirait que j'arrive pas à y croire, je suis comme « Ben voyons ». Ça...
Ben,
c'est toujours bizarre d'entendre ça, tu sais.
Ouais. Je pense que dans le feu de l'action, tu te rends pas compte de la montagne que ça représente, mais les gens qui, tu sais, comme qui regardent ton parcours en tant que tel doivent se dire comme yo, c'était toute une montagne à gravir, tu sais, comme un coup que t'es comme dedans, t'étais comme ah, c'était pas si pire, mais tu sais, je pense que c'est quand même c'est beaucoup de travail qui a été mis, j'ai l'impression, quand je regarde le parcours.
Ouais, vraiment.
Ben, peut-être qu'on peut ça commencer par de où tu viens puis comment t'as eu la passion pour le cyclisme.
OK, ben moi je viens de Saint-Augustin-de-Desmaures, c'est comme une ville juste à l'extérieur de Québec. Et puis mes parents ils ont déménagé à Neuville dans la région de Portneuf quand on est arrivé en sixième année. Fait que j'ai toujours grandi un peu comme dans les alentours de Québec. Puis ouais, ben mes parents ont toujours fait du vélo. Mon père, il s'est acheté son premier vélo de route quand il avait 14 ans, puis ils ont développé cette passion-là. Ils n'ont jamais fait de compétition, mais ça a toujours été quelque chose que, tu sais, quand ils faisaient des activités de course ou dans des activités de course, voyons, des activités de couple ou mettons, comme leur anniversaire de mariage, des choses comme ça, ils faisaient tout le temps des trips de vélo, ils allaient tout le temps rouler la fin de semaine et tout, donc... T'sais, un peu naturellement, quand t'es enfant, tu peux faire un peu comme tes parents. Fait que moi, à partir de 8 ans, quand j'étais toute jeune, je voulais faire du vélo de route comme mon père puis ma mère. Mais j'avais pas tellement envie de faire des compétitions, c'était juste que je voulais être comme mes parents, un peu comme n'importe quel enfant qui grandit. Puis ouais, en même temps, pendant l'hiver, moi, je faisais beaucoup de planche à neige, puis j'étais beaucoup plus comme, tu sais, passionnée par le monde du snow que le monde du vélo, mais il est venu un moment, genre, dans ma préadolescence où j'écoutais le Tour de France avec mon père, puis je voyais toutes les images, c'est comme des coureurs qui montaient l'école, qui étaient dans les Alpes et tout, puis j'avais cette passion-là pour les montagnes, puis j'avais vraiment envie de, ben justement, de passer ma vie aussi à être dans cet univers-là, à être dans cet environnement-là, puis c'est vraiment là que j'ai comme ma passion pour le vélo a vraiment décliqué. T'sais, j'avais vraiment envie de devenir comme Michael Rasmussen, puis genre, tu sais, grimper des grands cols, puis passer toute ma journée dans les montagnes, comme libre et tout. Donc, c'est vraiment comme ça que la passion a s'est développée. Puis, ben, mes parents, ils nous ont inscrits. J'ai une sœur jumelle qui faisait du vélo aussi avant. Ils nous ont inscrits dans un club de vélo pour les jeunes parce qu'en fait, ils avaient peur qu'on perde la passion si on faisait juste du vélo avec eux. Tu sais, ils voulaient que ça soit quelque chose de social aussi. Puis, c'est là que j'ai commencé à faire de la compétition. Puis, j'ai jamais vraiment arrêté. Ouais, c'est vraiment comme ça que ça a commencé.
Nice. Puis, dans le fond, j'imagine de fil en aiguille, tu as fait partie d'équipe. Puis là, un moment donné, tu es devenue assez bonne pour t'expatrier vers l'Europe, qui est comme un passage obligé pour tout le monde qui veut être sérieux en cyclisme.
Ouais, ben dans le fond, quand j'étais en junior première année, non, junior deuxième année, je m'étais vraiment entraînée cet hiver-là, puis cet été-là, puis on est allé faire les championnats canadiens avec mes parents, puis c'était ça avec mes parents, non, c'était avec l'équipe du Québec, je me rappelle, je m'étais vraiment entraînée, j'avais été sélectionnée par l'équipe du Québec pour aller faire les championnats canadiens, puis l'équipe nationale, il repêchait, tu sais, comme un groupe d'athlètes pour faire un camp d'entraînement pré-championnat du monde. Puis j'avais tellement été agressive, j'avais tellement envie de gagner les championnats canadiens ces années-là que j'avais été vraiment agressive pendant la course. Au final, j'ai pas gagné parce que j'ai tout brûlé mes cartouches avant la fin de la course, là. Mais je pense que j'étais arrivée genre quatrième, quelque chose du genre, mais j'ai été sélectionnée. Je me rappelle, on est allé manger au restaurant, toute l'équipe du Québec, comme avant la course sur route. Puis l'entraîneur de l'équipe du Québec était Pascal Choquette, puis il nous avait dit ah ouais, by the way, ceux qui font bien à la course demain, vous rentrez pas chez vous. Puis tu sais, nous, on pensait tout qu'il nous niaisait, on pensait qu'il n'était pas sérieux, mais il disait non, non, l'équipe nationale va sélectionner les coureurs qui ont le mieux fait, puis vous allez en camp d'entraînement directement, vous ne rentrez pas chez vous. Puis nous, on ne le croyait pas vraiment, mais finalement, comme après la course, ben, dans le fond, c'était vrai. C'est comme après la course, comme ceux qui étaient sélectionnés par l'équipe nationale, on s'est tous comme fait embarquer dans un bus avec l'équipe nationale, puis nous envoyer genre dans un camp. Au fin fond de nulle part, au milieu d'une forêt, puis on a fait genre beaucoup d'entraînement. Puis au terme de ça, dans le fond, ceux qui ont performé le mieux pendant le camp d'entraînement, puis pendant comme certaines autres courses qu'on a fait avec l'équipe nationale, on s'est fait sélectionner pour les championnats du monde. On est passé pendant un mois en Belgique à faire des courses et tout, à faire des kermesses pour préparer les championnats du monde. Puis c'est vraiment comme à ce moment-là que je me suis rendu compte que le cyclisme en Europe, ça n'avait aucun rapport avec le cyclisme en Amérique du Nord. Puis c'est vraiment devenu comme mon objectif numéro un. T'sais, j'étais comme, OK, là, c'est vraiment ça que je veux faire. C'est vraiment quand je suis arrivée en Belgique que je me suis rendu compte que ouais, c'était vraiment comme, je voulais vraiment être professionnelle en Europe. Ça m'intéressait pas trop d'être professionnelle aux États-Unis parce que à ce moment-là, tu sais, comme ça remonte quand même à longtemps, à ce moment-là, la scène américaine était encore vraiment bien développée. Il y avait beaucoup de compétitions, puis il y avait beaucoup de coureurs qui couraient presque uniquement aux États-Unis, tu sais. Mais moi, c'était vraiment comme je veux aller en Europe. Puis l'année d'après, dans le fond, je me suis fait repêcher par ben, ça s'appelait Futuroscope avant, là. Maintenant, c'est ce qui est reconnu comme FDJ, mais c'était la même équipe. Puis c'est vraiment là que j'ai commencé ma carrière en Europe.
Très cool. Puis, dans le fond, ça, c'était en 2014, c'est ça?
Non, les championnats du monde, c'était en 2011.
OK. Mais dans le fond, si j'ai bien compris, est-ce que tu es parti, parce que je lisais divers bio en ligne, est-ce que tu es parti à temps plein en 2014 en Europe?
Ouais,
Ouais.
c'est ça avec Futuroscope, ouais.
OK. Puis tu avais quel âge à ce moment-là?
J'avais 19 ans, j'ai tourné, j'ai eu 20 ans cette année-là,
OK. C'est quand même fou, là, tu sais, comme c'est jeune pour s'expatrier puis aller
ouais.
seul dans un pays, une nouvelle culture, puis
Ben, tu sais, juste entre, comme mettons, 2011 à 2014, j'ai commencé à faire des courses avec une équipe qui s'appelait Kenda, juste aux États-Unis. J'ai passé comme ces années-là, genre à voyager entre les États-Unis, le Québec, puis je faisais beaucoup de projets avec l'équipe nationale aussi, fait que je faisais des voyages, fait que je me suis comme habituée tranquillement à partir comme 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Mais ouais, ça a été vraiment dépistant en fait, parce que c'est du jour au lendemain, je suis partie de chez nous, je suis déménagée encore au fin fond de nulle part en France. C'était vraiment au fin fond de nulle part. On n'avait pas de voiture, on était dans un petit appartement, puis il fallait comme marcher 2 km dans la forêt pour aller à l'épicerie. C'est même pas des jokes, genre. C'était vraiment comme ça. Puis c'est sûr que les premiers mois, j'étais vraiment déstabilisée. Tu sais, j'étais comme, oh my God. Tu te fais taper sur le coco, genre à chaque fois que tu arrives à une course, ça va pas super bien parce que le niveau était ben, vraiment, vraiment plus élevé que ce que je connaissais. C'était dans les meilleures années de Marianne Vos, etc. Comme quand Rabobank était encore vraiment fort. Donc ça allait vite. Puis j'étais pas vraiment habituée à ça. Fait que, tu sais, comme tous ces changements-là ont vraiment comme. Ouais, je pense que j'ai vieilli, j'ai grandi rapidement cette année-là.
Ouais, le learning curve a dû être vraiment
Ouais, très
un
raide.
bon. Ouais, c'est ça, ça a été raide. Puis, dans le fond,
Ouais.
outre la vitesse, y avait-tu des choses qui étaient comme marquantes en termes de différence entre l'Amérique du Nord, qu'est-ce que tu avais connu chez Kenda, puis qu'est-ce que tu as connu à ton équipe professionnelle en Europe?
Ben, je dirais que c'est surtout comme la différence de mentalité. T'sais, comme aux États-Unis, les gens sont généralement plus. Moi, je voudrais pas dire respectueux, mais t'sais, c'est un petit peu plus. Moins old school, t'sais. Surtout dans ce temps-là, t'sais, comme la culture cycliste française n'était pas très. Comment dire. Juste healthy dans ma tête, là, genre, pas très saine, t'sais. Il y avait beaucoup de. Il y avait beaucoup de. T'sais, comme de vieux dictons old school qui faisaient que c'était quand même difficile de, t'sais, genre, de naviguer là-dedans comme jeune adulte. Fait que ouais, ça a été un gros choc pour moi de voir comme essayer de aussi comme avoir ma propre pensée critique sur ce que ces gens-là avaient à dire. Parce que la mentalité est encore vraiment ouais, vraiment différente de ce qu'il y a aujourd'hui.
Ouais, non, c'est sûr que c'est un clash culturel, je dirais. Puis c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Tu sais, j'ai pas beaucoup d'entrevues avec des femmes qui ont fait le World Tour, mais j'ai eu la chance de parler à quelques gars qui se sont expatriés dans le passé. Puis justement, c'est ça qu'ils disaient, tu sais, la culture, les méthodes d'entraînement, etc., qui sont extrêmement différentes puis un peu choquantes au début. Fait que ça, tu sais, j'ai parlé en intro un peu de ton parcours de combattante, tu sais, je dirais, t'as vraiment, tu sais, tu l'as pas eu facile, tu t'es expatrié jeune. L'autre affaire qui m'a un peu marqué en lisant ta bio, tu sais, c'est le gros crash que t'as eu, tu sais, parce que je pense que pour la plupart des gens, ça aurait été comme un traumatisme incroyable juste de crasher, mais en plus, tu sais, de crasher loin de tes proches, tu sais, comme dans un autre pays, j'imagine, ça doit être un peu terrifiant. Je sais pas si tu veux nous parler de cet épisode-là.
Ouais, ben, je pense que tu parles de la chute en 2017.
Ouais.
Ouais, c'est drôle parce qu'en fait, j'ai eu vraiment beaucoup. J'ai pas chuté énormément dans ma carrière, mais j'ai eu beaucoup de gros accidents, tu sais, je veux dire. Mais cette fois-là, c'était vraiment la plus grosse fois en course. En gros, ce qui est arrivé, c'est qu'on est parti au début de la course. Puis à ce moment-là, dans ma carrière, je me voyais plus comme une coureuse de montagne, de grimpeuse, mais je me faisais envoyer à n'importe quelle course. T'sais, comme quand tu es jeune puis que tu es domestique, tu fais ce que ton équipe t'envoie faire. Puis ça a donné que cette fois-là, ben, je faisais à travers la Flandre. Ben, ça avait un autre nom, mais c'était sensiblement le même parcours, là, fait qu'il y a beaucoup de pavés, beaucoup de monde, des choses comme ça. Puis j'avais vraiment peur sur les pavés à ce moment-là. Mais cette course-là, je me rappelle que je m'étais dit avant la course, non, là aujourd'hui, tu fais ton job, tu places Ashley en bas de la bosse, blablabla. En tout cas, et que j'étais vraiment comme dans un mindset de guerrière, de pas avoir peur. La course part, première section pavée, j'étais devant le peloton, je me rappelle. Puis là, je me suis réveillée à l'hôpital. C'est vraiment comme ça qui est arrivé, genre. Puis je me suis réveillée à l'hôpital, il y avait le manager de l'équipe, qui lui était en Suisse, qui arrivait cette journée-là, tu sais, comme lui, juste comme partie directement comme de l'aéroport à l'hôpital. Puis je me rappelle que la première chose que je me suis dit quand j'étais dans la ligne d'hôpital, c'est comme oh my God, j'ai perdu mes dents. C'est comme je sentais plus mon visage, fait que j'avais l'impression que mes dents étaient disparues. Mais comme j'étais comme tellement sonnée que lui, il me disait mais non, tout va bien et tout. Mais au final, ce qui est arrivé, c'est que je me suis fracturée, c'est comme tout le sinus, l'os du visage et tout. Puis je te dirais que les premières journées, j'étais vraiment dans les vapes. C'est comme j'ai signé, il a fallu que j'aie une reconstruction faciale dans le fond, parce que ça l'avait atteint aussi comme les os proches de mon nerf et tout. J'avais absolument besoin d'une chirurgie, mais je me rappelle avoir signé les papiers, j'étais pas toute là. J'étais consentante, mais pas consentante dans le sens que, tu sais, comme. Puis ça s'est passé super vite, j'ai resté quand même longtemps à l'hôpital, puis après, ben, je pouvais pas retourner chez moi au Canada, il fallait que je rentre. À ce moment-là, j'habitais à Gérone. C'est un de mes amis qui est allé me chercher à l'aéroport et tout. Puis en fait, les assurances ont fait que mes parents, ma mère, elle peut venir me rejoindre à Gérone pour comme le temps que j'avais besoin d'aide, parce que j'étais incapable de. J'ai eu une énorme commotion cérébrale là, pendant 6 mois. Pendant au moins 3 mois, il a fallu que je reste comme dans le noir et tout. Fait que, à chaque fois que je sortais de chez moi, je me perdais. Comme je tournais le coin de la rue, puis je savais plus où j'étais. J'étais pas capable de me tenir droite. À chaque fois que je tournais ma tête, c'est comme si, c'est quand tu bois beaucoup trop d'alcool puis que ta tête elle tourne, 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 tourne. C'était tout le temps comme ça, mais genre j'avais des épisodes comme ça à toutes les 30 minutes, c'est comme pendant au moins 2 mois. Et ça a été, ouais, ça a été vraiment une drôle de période, parce que j'étais un peu comme, j'étais dans le noir, mais j'étais vraiment pas toute là dans ma tête non plus. T'sais, j'étais juste comme en mode survie. Puis à un moment donné, ben j'ai refait ma première course, ça s'est vraiment pas bien passé. J'ai juste pris le départ, j'ai arrêté sur le côté parce que tous les mouvements, les gens qui bougeaient autour de moi, c'était comme trop, trop de stimulation en même temps. Mais après, c'est comme après, je pense que c'était 6 ou 7 mois, j'ai repris les courses pour de vrai. Puis c'est comme si toutes les peurs que j'avais dans le peloton, toutes les peurs que j'avais sur mon vélo, c'était disparu. C'est comme si je m'étais rendu, c'est comme si mon subconscient s'était rendu compte que la peur, c'est comme avoir peur sur le vélo, ça faisait que je faisais des erreurs ou je faisais des mauvaises décisions qui menaient justement à des chutes, à des ci, à des ça. C'est comme si mon subconscient a comme effacé genre la peur, comme le pire qui pouvait arriver m'est arrivé. Fait que là, il n'y a plus besoin d'avoir peur, tu sais. Puis j'ai de la misère à l'expliquer, comment est-ce que du jour au lendemain, j'étais incapable de me placer dans le peloton, à une des meilleures à se placer dans le peloton. Comme ça. Puis aucun travail qui a été fait, technique ou mental, c'est juste arrivé, tu sais. Mais ouais, fait que à partir du moment où ce déclic-là s'est fait, j'ai plus jamais eu peur dans le peloton, j'avais pas d'appréhension. Puis je pense que le fait que j'ai aucun souvenir de la chute a fait que j'ai pas eu de problème quand j'ai repris la compétition, tu sais. Parce que, en fait, je me rappelle pas du tout qu'est-ce qui s'est passé. Fait que je peux même pas, tu sais, comme. Souvent, tu sais, quand on a une chute puis qu'on a de la misère à reprendre le vélo, c'est qu'on se rappelle du moment juste avant la chute. Puis c'est ce qui fait qu'on fige, tu sais. Mais moi, en fait, j'ai aucun de ces souvenirs-là, tu sais. Fait que, ouais.
Mais quelle histoire, pareil. J'avais lu des grandes lignes, mais j'avais aucune idée de, tu sais, comme la gravité, puis, tu sais, dans le temps, tu sais, 6 mois, c'est long, là, pareil, là, de symptômes. C'est hallucinant.
Ben, tu sais, c'est drôle parce que ça a eu beaucoup d'effets comme même positifs par rapport à ma relation avec mes parents puis la relation avec ma mère, parce que comme, tu sais, je suis partie de chez moi vraiment, vraiment jeune. Puis c'est sûr que les premières années, tu sais, j'ai toujours eu un bon salaire. Comme en parlant là du cyclisme féminin, je veux dire, maintenant ça a vraiment explosé, mais dans le temps, c'était pas tout le monde qui était payé, puis pas mal tout le monde n'était pas bien payé. C'était comme relativement parlant, là, genre comparativement aux autres coureuses dans le peloton, j'ai toujours été quand même chanceuse dans les équipes où j'ai été. T'sais. J'ai toujours été dans des bonnes équipes avec des assez bonnes conditions. Mais c'est sûr que j'avais besoin beaucoup du support de l'équipe nationale, du support de l'équipe du Québec, t'sais, comme de mes sponsors, puis d'autres fondations, puis de mes parents surtout. T'sais. Puis je pense que mes parents se rendaient pas nécessairement compte à quel point, genre, c'était prenant le mode de vie, tu sais. Puis le fait que ma mère elle soit venue chez moi, puis qu'elle ait juste vécu avec moi pendant quelques semaines, puis qu'elle ait vraiment vu c'était quoi la réalité de, genre, c'est comme du tous les jours, du commun, genre, d'être une cycliste professionnelle. Je pense que ça l'a aussi comme ouvert des lumières par rapport à, oh my God, OK, elle est pas juste chez elle à boire des cappuccinos puis aller rouler une fois de temps en temps. C'est vraiment comme une job à temps plein, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tu sais. Et que ça l'a aussi, cet effet-là, tu sais, je me sentais vraiment loin de ma famille, surtout que c'était comme avant qu'elle arrive. Puis, tu sais, je me suis rendu compte aussi que tu sais, on n'est pas imbattable, tu sais, comme on n'est pas. Puis à partir de ce moment-là, tu sais, j'ai pris conscience de l'importance de garder contact avec comme mes parents, ma famille, tout ça, puis de vraiment avoir des contacts plus fréquents avec eux, parce que justement, tu sais, ben n'importe quoi peut arriver n'importe quand, tu sais, comme ça a eu des effets. Ben, c'est sûr que c'était un gros accident, puis que tu sais, ça a eu des répercussions comme négatives, mais en gros, tu sais, si je regarde maintenant avec le recul, ça a eu énormément d'effets positifs aussi, puis ça m'a fait super grandir.
Non, c'est fou. Puis, tu es comme l'invité parfaite de podcast parce que tu fais des segways vers mes prochaines questions. Je pense sans t'en rendre compte. Mais ma prochaine question, c'est justement dans l'espèce de parcours de la combattante, tu sais, c'est la condition féminine sur le World Tour. T'sais. On sait que ben, t'sais, quand tu as commencé il y a 10 ans, c'était, j'imagine, c'était à des années-lumière parce que t'sais, moi, ça fait 3-4 ans que je suis un peu plus le World Tour féminin. Puis je vois déjà t'sais, les différences d'un point de vue, t'sais, les coureuses quand ils parlent des conditions. Puis, est-ce que tu veux nous parler, mettons, de ta première puis ta dernière saison, quelles étaient les différences?
Ben, les différences, probablement, c'est, je dirais que c'est juste les équipes se sont professionnalisées, tu sais. Ben, les conditions sont, je dirais que, ben, les salaires en général sont plus élevés, mais tu sais, ça, c'est pas nécessairement, pour moi, c'est pas la chose la plus importante, tu sais, parce que n'importe quel cycliste, s'il serait capable de, comme, se supporter, puis que de faire ce qu'il prendrait, tu sais, comme si les salaires, ce que je veux dire, c'est qu'ils étaient généralement plus bas, je pense pas que ça empêcherait les cyclistes d'être cyclistes. Tu sais. C'est pas nécessairement ça qui fait la différence. Mais c'est surtout dans le sens de. Il y a de moins en moins de comparaisons entre comme les hommes et les femmes. Tu sais. On a comme. Je pense que la plus grosse différence, c'est que maintenant, on est reconnu comme égaux. Tu sais. On est des athlètes à part entière. Parce qu'avant. Puis, même, c'est drôle que tu me dises ça parce que j'ai commencé dans une équipe française, puis j'ai terminé dans une équipe française. Puis, comme il y a encore des choses qui me dérangeaient chez Cofidis, dans le sens que si on parlait avec le staff chez les hommes, par exemple, ben les mécanos, des fois, ils passaient des hommes à y venir avec les femmes, mais comme quand ils nous parlaient, ils disaient des choses dans le genre ah ouais, mais moi, quand je travaille avec les pros, en parlant des hommes, c'est comme s'ils étaient avec nous autres, ils n'étaient pas pros. T'sais. Ça, ce genre de mentalité-là, ça existe encore dans le vélo, mais c'est de moins en moins présent. T'sais. Puis c'est de moins en moins présent dans le sens que ça nous atteint de moins en moins. T'sais, avant, c'était la mentalité, mais c'était aussi comme ce qui était représenté comme dans les actions ou dans les décisions qui étaient prises comme au niveau de management. Maintenant, la majorité des équipes sont, t'sais, comme surtout les équipes qui ont été créées parce qu'ils voulaient avoir une équipe femme, pas juste parce que genre les sponsors leur imposaient. Ben, les athlètes sont vus comme des athlètes à part entière. Professionnels. Puis je pense que le fait qu'il y a de plus en plus d'équipes qui traitent leurs coureurs de cette façon-là, ben le plus en plus que les coureuses ont un comportement ou un mode de vie professionnel qui fait que ben, le niveau augmente. T'sais, comme avant, mettons, tu avais une ou deux équipes qui étaient professionnelles, fait que les autres, t'sais, comme ben, les coureuses, il y en avait qui pouvaient faire ça à temps plein, mais il y en avait d'autres qui ne pouvaient pas nécessairement se concentrer à temps plein, il n'y avait pas nécessairement les mêmes ressources. Fait que là, t'sais, comme la progression est de plus en plus, plus lente. Mais maintenant, il y a tellement plus d'équipes qui ont plus de ressources que ben, les filles arrivent à se développer elles aussi. T'sais. Je pense que c'est pour ça que c'est comme si le cyclisme féminin est accéléré, mais c'est juste que tu mets un petit peu de ressources, puis ça n'en prend pas beaucoup pour faire exploser le truc. T'sais.
Ouais. Non, c'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, je pense que c'est aussi probablement un des sports qui est le plus en vie, tu sais, d'un point de vue féminin, là, parce que tu as le basket féminin, le golf féminin, le hockey féminin commence au Québec, mais tu sais, le cyclisme, je pense que c'est un des beaux sports qui est féminin, qui est en vie présentement. Puis, est-ce que tu sentais, tu sais, parce que toi, je pense que ton conjoint, en fait, je le sais, mais le podcast est à propos de toi, fait que je ne le nommerai pas, mais tu sais, ton conjoint, lui, est aussi un cycliste professionnel. Est-ce que tu vois une différence, tu sais, de regard dans le peloton, dans l'industrie, justement, parce que, tu sais, c'est pas quelque chose qu'on voit, tu sais, dans d'autres domaines où est-ce que, mettons, un couple d'athlètes professionnels dans le même sport? Je sais pas si ça fait du sens, ma question.
Ouais, ben, ça nous arrive des fois de se faire poser cette question-là, comme en entrevue et tout. C'est sûr que. Mais je pense que. Puis, tu sais, c'est une des choses qui est importante pour nous deux, c'est que nos carrières sont séparées. Tu sais, on a nos ambitions à nous deux, puis on essaie de vraiment garder ça comme disjoint. Fait que, tu sais, ça n'a jamais été quelque chose. Peut-être que j'aurais pu profiter un petit peu plus comme de son nom, tu sais, comme pour me faire avancer dans des choses, mais nous, on a décidé, genre, de garder ça séparé juste parce que ça nous intéresse pas. On veut avoir notre nom à nous propres, tu sais, mais je pense qu'en général, les couples, il y en a plus qu'un, là, des couples de coureurs professionnels ensemble. Je pense qu'en général, il n'y a pas beaucoup, genre, de, ben, justement, de filles qui profitent de la notoriété de leur partenaire pour, comme, se faire avancer, tu sais. Mais je pense que c'est sûr qu'il y a des gens qui doivent penser de cette façon-là, tu sais. Mais c'est nice d'avoir, que tu sois dans un couple qui, les deux, ont fait la même chose, parce que c'est un sport qui demande tellement, tellement de temps. Pas juste comme de l'entraînement puis de la vie du quotidien puis tous les jours, mais on est tout le temps parti. Tu sais, je pense que moi, je connais bien mes jours parce qu'avec ma résidence, il faut que je calcule où est-ce que je suis quand. Puis, je suis à peu près 230 jours par année partie de chez moi, tu sais, à l'hôtel. C'est énorme. T'sais. Puis, lui, c'est la même chose. Puis, si on n'est pas sur des calendriers qui sont le même, ben, tu sais, c'est difficile d'avoir une vie de couple, tu sais, parce que t'es jamais chez toi, en fait. Fait que le fait que les deux, on fasse la même chose, ben, on se respecte, on comprend. Puis, c'est un frein en moins parce qu'il n'y a pas quelqu'un à la maison qui essaie de te ramener à la maison, tu sais. On est vraiment libre sur ça. Puis, on arrive à se voir, tu sais, par exemple, quand on fait des courses des classiques, ben, on passe tout le printemps en Belgique ensemble. Fait que, tu sais, on est à l'hôtel, mais on est ensemble. Puis on gère notre saison un peu comme ça. Ben, on gérait notre saison parce que là, j'ai pris ma retraite. Je sais pas trop à voir comment ça se passe maintenant, mais ouais, je pense que. Puis quand on est ensemble, ben, on est 24 sur 24 ensemble parce qu'en fait, on s'entraîne ensemble, on hang out ensemble. Fait que je pense que. Dans un sens, c'est difficile d'être en couple avec quelqu'un qui est un cycliste, mais dans un autre sens, ça facilite beaucoup d'autres choses.
Non, c'est vraiment
Ouais.
intéressant comme angle. C'est un angle que je n'avais pas pensé. Pour tout, qu'est-ce qui est justement les voyages, étant donné que vous êtes les deux parties, ça prend du timing, comme on dit.
Ouais, c'est de la logistique, beaucoup de
Ouais.
logistique.
Encore une fois, c'est super bon segue vers ta retraite puis ton après-carrière. Mettons, en rétrospective, maintenant que tu es retraité, ce serait quoi tes plus beaux souvenirs en carrière?
Ben, mes championnats du monde à Copenhague, ce qui est parti dans le fond de ma carrière, cette course-là, ça l'a vraiment comme ouvert mes yeux puis ouvert ma carrière sur, ben, tu sais, ouvert les portes vers la carrière que j'ai eue, tu sais. Mes années chez Bigla aussi ont été hyper. Bigla, ouais, je sais pas, c'est difficile à dire. Il y a eu tellement de gros moments, tu sais. J'ai appris énormément quand j'étais chez Bigla parce qu'on était une équipe qui était hyper performante là, dans les années où j'étais là. Mais on était un groupe de filles qui n'avaient pas nécessairement des gros. Il n'y avait aucun gros nom dans l'équipe. On était toutes un peu des nobody, mais genre, on gagnait beaucoup de courses, on avait énormément de résultats. Puis c'est parce qu'on était tellement groupés, on était tellement un bon collectif qu'on passait des bons moments, puis on performait énormément sur les courses. C'était un petit peu la même chose quand je suis arrivée chez WNT la deuxième année. C'est faire partie de grosses victoires comme Gent-Wevelgem, de panne, même si c'était pas nécessairement des courses qui étaient pour moi, tu sais, juste comme avoir l'opportunité de faire partie de victoires comme ça te donnait les watts extra, genre pour. Puis c'est sûr que le Tour de France cette année, j'ai eu un hiver hyper difficile parce que j'ai eu une grosse opération en fin septembre pour. J'avais des problèmes d'endofibrose. Puis j'avais même pas mis dans mon calendrier ou dans mes objectifs de faire le Tour de France. Tu sais, fait que d'être arrivé puis de prendre la place de quelqu'un d'autre qui était moins performante au moment de la sélection, ben ça a été pour moi vraiment un gros moment. Ouais.
Puis, ça ressemble à quoi, mettons, faire le Tour de France féminin? Y a-tu beaucoup de monde en bord de route? C'est-tu aussi big qu'on
Ouais,
pourrait penser?
c'est incroyable. C'est, t'sais, il y a des courses, par exemple, une de mes courses préférées t'sais, comme de toutes les courses qui existent, c'est la Flèche Wallonne. Puis une des raisons pour laquelle j'aime tellement cette course-là, c'est que quand tu arrives dans le mur de Huy, c'est tellement. Le bruit est tellement fort, c'est tellement intense qu'en fait, tu le sens presque pas le mur de Huy. T'sais, ça fait tellement mal, puis c'est tellement long, c'est 800 mètres, mais ça dure 5 minutes. T'sais, mais les gens, ils crient tellement, tu t'entends pas penser, tu t'entends pas avoir mal. Sauf que dans cette course-là, tu sais, tu as le mur de Huy, puis comme tout le reste de la course, c'est très silencieux. T'sais. Je veux dire, dans certains monts, il va y avoir des gens, des spectateurs et tout, mais en général, tu es dans la campagne, puis c'est tranquille. Mais au Tour de France, c'était comme ça criait, mais genre pendant 150 km, tu sais. Il y avait des gens partout, 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 partout. T'sais, le bus arrive au départ, il y a des gens qui. Je veux dire, t'as de la misère à sortir du bus, il y a tellement de fans. C'est genre, c'est quelque chose qui n'existait pas chez les filles il y a 3 ans, tu sais. Puis ça, c'est tellement inspirant je me rappelle quand j'étais arrivée ça fait longtemps que je fais du vélo de professionnel, tu sais, mais ça faisait longtemps que j'avais pas senti des papillons dans mon estomac, tu sais, quand t'arrives à une course, puis à l'étape numéro un, là, j'ai vraiment, comme, quand j'ai regardé à l'extérieur du bus, puis j'ai vu toute la patente, tu sais, j'étais comme, j'ai vraiment senti les papillons comme les championnats du monde junior en 2011, tu sais. Ouais.
Très nice. Puis, dans le fond, il y a beaucoup de monde. Ben, dans le fond, c'était pas dans les questions que je t'avais posées, là, fait que si jamais tu veux skipper, tu me le diras. Mais, dans le fond, il y a beaucoup de monde qui disent que la distance chez les femmes devrait être la même que chez les hommes. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Moi, je ne suis pas d'accord. Parce qu'en fait, le fait que nos courses sont plus courtes, ça fait des courses très dynamiques. Puis c'est ça qui fait l'essence du cyclisme féminin. C'est pas. T'sais, par exemple, le modèle d'affaires du cyclisme en général est pourri. C'est pour ça qu'il y a énormément d'équipes qui ferment, il y a des sponsors qui partent. Puis ça a été. T'sais, le chemin a été tracé par le cyclisme masculin. C'est comme à toute évidence. Mais il y a certaines choses il y a certaines choses qui ont besoin d'être comme les mêmes, par exemple le respect, les salaires, whatever. Mais il y a des choses qui font que le cyclisme féminin est différent que, selon moi, on ne devrait pas changer, tu sais. Puis la formule de course qu'on a, c'est hyper vibrant. Il y a de l'action dès le départ jusqu'à la fin. En général, c'est difficile d'avoir, comme c'est comme à la télé, là, avoir comme une diffusion comme complète de la course. Mais l'avantage de ça, c'est que nos courses sont plus courtes. Fait que tu vois une plus grosse portion de la course. Puis comme ça part sur le gun chez nous, ben, ça fait que la portion de la course qui est à la télé, souvent, c'est hyper explosif. Tu n'auras jamais une étape qui dure 6 heures ou le trois quarts de l'étape, c'est juste. Tu vois les mecs se faire chier, genre avec des beaux paysages, puis ils font juste parler comme des recettes, puis du vin, parce qu'il n'y a rien à dire sur la course. Ça n'arrivera jamais chez les femmes. Puis je pense que pourquoi est-ce qu'on irait vers là? Je veux dire, c'est que ces étapes-là sont intéressantes juste pour le sprint. Ben, on a des étapes de sprint, nous aussi, mais souvent dans les étapes de sprint, même si on le voyait sur le Tour de France cette année, on ne savait pas si ça allait être un sprint ou ça allait pas être un sprint, parce qu'il y a eu des. T'sais, il y a plus de péripéties dans une course de femmes, puis je pense que c'est quelque chose qu'on devrait juste garder parce que c'est ce qui fait la beauté aussi de notre sport. T'sais, on a notre identité. Fait que pourquoi la changer?
Ben, moi, je suis 100% d'accord avec toi. Là. En fait, je ne pensais pas donner mon avis là-dessus, mais je trouve que c'est tellement plus dynamique, en effet. Puis, tu sais, L'année passée, je regardais le Tour de France, puis à un moment donné, je l'écoutais à la télé française, puis il parlait d'une place où ils faisaient du vin ancestral. Puis là, j'étais comme, ils ont fait un segment de 25 minutes sur le vin ancestral avec le vigneron. Puis là, j'étais comme, yo, je ne comprends pas pourquoi on écoute ce segment-là alors qu'il pourrait avoir de l'action. Tu sais, jamais dans une game de hockey, ils vont parler, genre, je sais pas, tu sais, T'sais, ils vont faire un segment de 20
La
minutes,
bière
t'sais, c'est...
artisanale de moi, non, c'est ça,
Exact.
c'est
Fait que, t'sais,
non.
je trouvais que ça faisait aucun sens.
Non.
Puis justement, j'avais pogné quelques courses féminines, puis je trouvais que ça c'était vraiment tout le long, gaz au bout, t'sais, c'était vraiment dynamique. Fait que non, je suis 100% d'accord avec toi.
Mais tu sais, on le voit aussi chez les hommes, les courses d'hommes qui sont plus courtes. Tu sais, ils en font, là, ils en amènent de plus en plus. Les étapes plus courtes chez les hommes sont tellement excitantes. Les meilleures étapes du Tour de France des 5 dernières années, c'était les étapes les plus courtes. Fait que même chez les hommes, c'est le même scénario. Tu sais, je pense qu'une étape qui est trop longue, tu peux pas courir à bloc pendant 6 heures. Ça se fait pas. Tu sais, je veux dire, peut-être que dans les années genre 2010 ou whatever, tu sais, quand il y avait toutes les affaires, les hommes avaient, tu sais, ils utilisaient des vitamines qu'on n'utilise pas, genre. Mais tu sais, c'est pas, je veux dire, si tu veux avoir, il faut que tu fasses le choix. Si tu veux avoir un bon show, ben, il faut que tu raccourcisses ces étapes parce que tu sais, comme humainement, puis comme sainement, c'est juste pas quelque chose qui arrive. Sinon, c'est juste une game d'endurance. Puis une game d'endurance, ben, il n'y a pas grand-chose qui se passe, tu sais.
J'ai l'impression que des fois, tu sais, mettons, étant donné que c'est tellement accessible le cyclisme, tu sais, mettons, tu roules, puis tu peux, des fois, tu croises des pros, tu sais, c'est les mêmes routes d'entraînement. J'ai l'impression que c'est tellement accessible que pour les gens qui se passionnent puis qui roulent, là, les average Joe comme moi, ils mettent les étapes le plus hard possible pour qu'on croie, tu sais, tu comprends, dans le fait que c'est des pros. Puis j'ai cette impression-là que des fois, tu sais, le cycliste se dit, on va mettre ça tellement difficile que le average Joe va jamais penser qu'il est capable de faire ça, mais ultimement, ça réduit un peu le show qu'on regarde, tu sais.
Ouais, ben des fois, surtout, mais pas tant sur le Tour de France, mais tu vois ça surtout, mettons, à Vuelta ou au Giro, où on a l'impression qu'ils essaient de trouver les cols les plus pas possibles au monde. Genre, tu te dis,
Exact.
mais pourquoi, genre, mais pourquoi? Ça n'a aucun sens. T'sais, des fois, il y a des arrivées d'étapes. Je veux dire, juste comme d'être dans le monde du vélo, là, t'sais, ça, tout le monde dans l'équipe, ça les fait chier, t'sais, comme de finir en haut d'un col de gravel de genre 10 km parce que où est-ce que tu vas mettre le boss? Où est-ce que tu. T'sais, logistiquement, ça, il y a des choses qui n'ont aucun sens, mais qu'eux, ils ont l'impression que ça va faire le show parce que c'est comme 5 km à 30 %. Mais il n'y a
Ça fait le show
personne
en amont,
qui.
mais pas pendant que ça TV, tu sais.
Ouais, non, c'est ça. T'sais, parce que si, mettons, tu mets une étape de 190 km avec une bosse de 5 km à 30 %, c'est sûr que le monde y pense à la bosse de 5 km à 30 % toute l'étape. C'est comme. Il va avoir. En tout cas, c'est juste. Des fois, ouais, tu te demandes c'est quoi le. Mais tu sais, il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'organisateurs de courses qui font partie de la vieille époque encore. C'est même chez les hommes. On est comme dans une étape de transition entre comme le cyclisme moderne puis le cyclisme d'avant, tu sais, puis ça va prendre plusieurs années avant que ça change vraiment, tu sais, parce que même les managers d'équipe chez les hommes, les managers professionnels, c'est tous des anciens coureurs des années 90, tu sais, fait que les mentalités, ils changent, mais pas si vite que ça, tu sais.
Non, c'est ça va prendre une autre vague avant que ça
Ouais.
devienne peut-être plus actuel. Puis,
Ouais.
dans le fond, je l'ai dit plus tôt, toi, tu es diplômé de l'ESG UQAM, tu as fait ton bac à distance, j'imagine. Oui. Puis, dans le fond, là, tu es en marketing sportif, c'est ce que j'ai vu. Est-ce que tu veux nous élaborer un peu sur ce que tu fais comme consultante?
Ouais, ben c'est pas nécessairement marketing sportif, là, mais c'est juste que c'est vrai que mon réseau, tu sais, mon network, il est dans le sport puis dans le cyclisme principalement. Fait que c'est sûr que là où mes contacts sont, c'est là que je travaille. Mais tu sais, c'est pas quelque chose que je me dis, ah, je me concentre vraiment juste là-dessus. Tu sais, je suis quelqu'un qui est naturellement très, très curieuse. Fait que comme n'importe quel type de business m'intéresserait, tu sais, dans n'importe quelle industrie. Mais ouais. J'ai gradué en 2020, 2021, je me rappelle plus trop, une des 2 années. Mais pendant que je faisais mes études, dans le fond, Je travaillais aussi, j'avais commencé mon entreprise avant même d'avoir gradué parce que je faisais toutes les, c'est comme tous mes travaux de session ou quoi que ce soit, je les faisais au lieu de prendre des entreprises, c'est comme fictives ou prendre des vraies entreprises, mais de créer un cas fictif par rapport à comme une entreprise qui existe. Je prenais des entreprises, des PME ou des entreprises, c'est comme dans mon entourage qui existaient, qui avaient des vraies problématiques, puis tu sais, je me testais sur le terrain. Ça l'apportait comme beaucoup, beaucoup plus de tu sais, comme c'était un plus gros challenge parce que souvent, tu sais, des problèmes de marketing dans une entreprise, c'est pas juste des problèmes de marketing, c'est comme vraiment plus global. Mais mon bac, c'est un bac en administration des affaires, c'est pas juste un bac en marketing. Fait que, tu sais, j'ai quand même des outils pour voir comme une entreprise dans son état global. C'est pas juste du point de vue, tu sais, comme marketing. Fait que ça m'a de faire cette stratégie-là, de justement comme de toujours travailler avec des vraies entreprises, puis de faire mon portfolio à petit comme ça a non seulement comme grandi mon portfolio, mais ça m'a aussi donné l'expérience que j'aurais pas pu avoir à juste être cycliste, tu sais. Parce que j'ai toujours eu envie de travailler en marketing. C'est relativement vrai, mais j'ai toujours voulu avoir une carrière après le cyclisme. Puis je savais que le travailler en marketing, c'est aussi une carrière dans le sens qu'il faut vraiment que tu fasses ton nom, que tu fasses tes preuves, tu sais, comme pour avoir comme une bonne position puis avoir un travail qui est le fun, tu sais, de pas juste comme être un pion dans une boîte de marketing X, tu sais. Puis bon, sachant que j'allais commencer à travailler à partir de 30 ans, ben si tu es au bas de l'échelle à 30 ans, avant que tu arrives à un poste qui est le fun, ben ça va prendre du temps. Fait que tu sais, c'était vraiment mon objectif de créer ma carrière pendant ma carrière. T'sais. Ouais.
C'est bien expliqué. Puis là, dans le fond, tu travailles principalement, ça tu disais, pour des équipes sportives, mais aussi tu as d'autres clients.
Ouais, ben en ce moment, ouais, je freelance. En ce moment, j'ai mon entreprise. Là, pendant que je courais, je faisais surtout de la gestion de communauté sur les réseaux sociaux, parce que c'est relativement facile et ça prend pas énormément de temps. Fait que là, c'est vraiment comme c'est vraiment mon expertise. Tu sais, j'ai plusieurs comptes que je gère, autant des coureurs que des entreprises ou des équipes. Tu sais, j'ai comme plusieurs différents. Toujours dans le monde du cyclisme, mais des différents profils, puis aussi différents objectifs. Il y en a que c'est vraiment. T'sais, un coureur, on s'entend, il ne veut pas vendre des produits, là, il veut juste comme communiquer avec ses fans. Mais une équipe sportive, c'est un peu différent. Tu as aussi des objectifs des sponsors. C'est le fun parce que ça amène beaucoup de variété, même si c'est la même industrie.
Très cool. Puis là, dans le fond, mon dernier point, je voulais te parler. Dans le fond, là, tu t'es recyclé en trail running. C'est ça, j'ai vu sur ton Instagram.
Ouais, ça c'est. Mais tu sais, parce que ma retraite, elle n'a pas été planifiée. Dans le sens que j'ai eu mon opération d'endofibrose en fin septembre l'année dernière. C'est comme dernier. Puis ça m'a pris énormément de temps comme me remettre. Parce que mon opération a été quand même une grosse opération. Tu sais, j'ai à peu près 25 cm d'artère qui a été réparée. C'est vraiment beaucoup. Puis ça a pris beaucoup de temps à revenir à un bon niveau, tu sais. J'ai fait beaucoup de sacrifices pour l'équipe l'an dernier qui n'ont pas été respectés, dans le sens que tu sais, je me suis fait promettre des choses, même si je faisais les sacrifices X ou YZ. Tu sais, je n'ai pas trop rentré dans les détails, mais qui ne se sont pas nécessairement concrétisés. Puis j'avais vraiment plus envie, tu sais, comme j'ai eu ce sens de comme désillusionnement-là qui a fait que j'avais plus vraiment envie, genre, de rester dans cet environnement-là. Puis en regardant les autres options que j'avais, tu sais, comme il aurait fallu que je passe par de que tu sais, comme que je saute par-dessus certaines comme barrières que je m'étais mises ou certaines, tu sais, comme règles que je m'étais mises. Puis je me suis vraiment questionnée, est-ce que ça vaut la peine pour 2 ans de plus dans le World Tour, tu sais, comme de passer par-dessus ça, tu sais. Puis moi, ça valait pas vraiment la peine parce que je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai commencé le vélo parce que j'avais envie de passer plus de temps dans le plein air, j'avais envie de passer plus de temps dans les montagnes, j'avais envie d'être, c'est comme libre. Puis en fait, ça n'a pas rapport avec ça, le vélo sur la route, tu sais. C'est vraiment pas ça. Puis j'avais perdu ce sens-là, c'est comme d'être dans la nature, puis c'est comme d'explorer. Puis c'était devenu routinier, puis je me suis rendu compte que je faisais ça juste parce que je faisais ça, tu sais. Des fois,
Oui.
on reste dans le même, t'sais, comme dans le même train où on continue notre même parce que c'est devenu comme ce qu'on fait est devenu notre identité, tu sais. Puis on se pose pas vraiment la question, est-ce que ça nous fait encore plaisir? Est-ce qu'on est encore heureux à faire ça ou est-ce qu'on fait juste ça parce que c'est ce qu'on connaît puis c'est confortable, même si c'est inconfortable. Puis ben ma sœur jumelle, elle a arrêté le vélo, ça fait longtemps, mais elle fait du trail running. Puis ça m'a toujours vraiment intéressée, comme j'ai toujours été passionnée par ce qu'elle faisait, puis ça m'a vraiment inspirée. Puis j'avais envie aussi d'explorer. Tu sais, à chaque fois que j'avais des courses qui allaient pas bien, je faisais tout le temps, j'allais tout le temps hiker ou comme grimper des montagnes chez moi en dehors. Fait que quand j'ai pris la décision de pas signer un contrat, j'avais pas nécessairement envie de plus être un athlète. J'ai encore envie de faire des compétitions, j'ai encore envie de m'entraîner à temps plein, j'ai encore envie de vivre ça parce que j'ai encore énormément à donner, surtout après l'opération, puis genre avoir retrouvé les jambes que j'avais il y a plusieurs années. J'avais pas envie de comme tout laisser tomber, genre c'est du jour au lendemain. Fait que c'est là que je me suis dit, ben, je vais juste, tant qu'à prendre la retraite du sport, ben je veux juste me recycler dans un autre sport. Tu sais, deux sports d'endurance. C'est sûr que la course à pied, c'est complètement différent que du cyclisme. Je veux dire, je ne vais pas mentir que les derniers mois, genre de juste comme transitionner entre le vélo et la course à pied, ça n'a pas été facile. C'est pas facile parce qu'on n'est pas habitué à autant de chocs. Puis comme physiquement, c'est vraiment intense là, comme sport. Surtout comme le trail, là, genre descendre des bosses, des montagnes en courant. C'est beaucoup plus difficile que ça a de l'air, tu sais.
Ouais, t'as dû découvrir des
Fait
nouveaux
que
muscles.
exact, ouais, mais surtout genre pas des muscles mais genre des petits tendons, des petits os que genre t'as pas l'impression qu'ils sont là quand ils sont bien, tu sais, comme dans
Ouais.
ton soulier en carbone là. Puis là tout d'un coup genre tu mets tout ton poids là-dessus, t'es genre oh, ouais. Fait que mais ouais, non, c'est vraiment motivant. Puis tu sais, j'ai des opportunités qui s'ouvrent de plus en plus, tu sais. Je veux dire, j'étais avec Mikey pendant quelques années, juste comme pour l'entraînement, c'est pas nécessairement pour le vélo parce qu'ils ont vraiment de produits pour le vélo, mais tu sais, comme tout ce qui était à côté du vélo, comme le conditionnement physique, ces choses-là. Puis comme quand je les ai approchés avec mon projet sur le trail, ils étaient vraiment motivés. Puis j'ai pas encore annoncé énormément des sponsors que j'ai pour les prochaines années, mais je pense que j'ai eu beaucoup plus d'enthousiasme à partir du moment où j'ai décidé de faire de la course à pied que si jamais, mettons, j'avais continué dans le vélo. Fait que c'est vraiment c'est une belle transition, c'est cool, c'est motivant, puis c'est le fun de se lancer dans le vide, puis de vraiment pas savoir comment ça va. J'ai aucune attente, dans le fond, je sais pas trop comment ça va se passer, mais mes premières courses sont à la fin mai, peut-être un petit peu avant, peut-être en avril, je sais pas encore. Je peux pas annoncer trop vite, mais ouais, c'est que j'ai hâte.
Parfait. Ben non, mais on va te suivre là-dessus. Ça a l'air super beau. Puis en plus, tu sais, le Danemark, il manque pas de trail là-bas. Fait que j'imagine t'as un beau terrain de jeu en arrière.
Ben ouais, mais ben, en fait, tu sais, comme j'ai le Danemark puis j'ai Andorre, c'est comme les deux
OK.
endroits, ouais, c'est parfait pour le traveling.
Fantastique. Ben, je pense que ça fait pas mal le tour des questions que j'avais pour toi. Ben, je te remercie beaucoup de t'être prêté au jeu pour c'est un gros 50 minutes de discussion qu'on a eue.
Ah, c'est pas grave, ça fait plaisir.
Puis ben, je te souhaite vraiment une bonne chance dans la transition puis dans ton après-carrière. Puis ben, au plaisir de se reparler si on a une opportunité.
Merci beaucoup.
Merci, à bientôt.
Bye, bonne fin de
Bye.
soirée.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Encore une fois, je vous invite à vous abonner et surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire ou en message privé qui vous aimeriez entendre dans le futur sur le podcast. Merci beaucoup, à bientôt.